Afrique.
C'est avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit Allahu Akbar. Après ça, ils ont dit que où est l'argent? Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ce soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel Plus. Aujourd'hui au sommaire, la campagne présidentielle bat son plein au Niger, reportage sur les prisons au Cameroun, dossier sur les problèmes du secteur éducatif au Tchad et nous évoquerons l'excision dans notre rubrique santé. Voici tous les sujets que nous allons développer dans Sahel Plus, restez avec nous. Retour sur la campagne présidentielle au Niger. Le premier tour de cette présidentielle aura lieu le 21 février prochain. 15 candidats sont en lice. Lancée fin janvier, la campagne suit son cours normal avec cependant des interpellations d'opposants. Le point dans ce reportage de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
La campagne se déroule sans incident majeur. Il reste néanmoins que la situation carcérale d'un des candidats la domine. Ajoutée à elle, celle de plusieurs responsables de son parti et récemment encore de la cantatrice de la même formation politique, le processus inquiète notamment les acteurs de la société civile. Moussa Kiangari de l'association Alternative Espace Citoyen.
Le maintien en détention d'un des candidats de l'opposition, en l'occurrence M. Hama Amadou, ainsi que les chances d'une victoire annoncée du président sortant au premier tour sont les principaux ingrédients du climat de tension politique actuel. Cette situation a conduit les partis politiques de l'opposition à ne pas signer le code de bonne conduite proposé par le NDI.
Le responsable régional de Maradi du parti de Ibrahim Yacouba, candidat aussi à la présidentielle du 21 février et lui aussi depuis lundi soir arrêté par la police régionale de Maradi. Pour le reste, chacun des 14 candidats poursuit normalement ses rassemblements dans les différentes régions. Le candidat président Issoufou Mahamadou vient par exemple de terminer satisfait avec 2 des 8 régions du Niger.
Je n'ai aucun doute, en tout cas c'est ce que j'ai noté comme message de la part des populations. Les populations sont prêtes pour que cette aventure avec nous continue pour les 5 années à venir. Il y a 43 partis qui me soutiennent. C'est un argument supplémentaire pour croire que les populations ont raison de dire qu'il n'y aura pas 2 tours à l'occasion de cette élection. Il n'y aura qu'un seul tour.
Dans son fief de Tillabéri, le candidat Amadou Boubacar Cissé écarte cette idée d'un passage dès le premier tour du président sortant.
Nous ne les laisserons pas. Il faut qu'ils le sachent. Il n'est pas question aujourd'hui d'accepter que le PNDS puisse passer au premier tour. Ils sont minoritaires dans ce pays, eux et leurs alliés, et ils le demeureront minoritaires. Et c'est l'opposition aujourd'hui qui a la majorité dans ce pays.
Le chef de file de l'opposition, Seynou Mourou, est à Agadez. L'ancien président de la République, Mamman Ousmane, lui, n'a débuté sa campagne que ce mardi par la région de Diffa où sévit la secte Boko Haram. Les autres candidats se font, eux, plutôt discrets, certains ayant choisi la stratégie du porte-à-porte pour convaincre les électeurs. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
La voix de l'Amérique au Niger, sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez, et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Au Cameroun, des associations de défense des droits de l'homme appellent le gouvernement à améliorer les conditions de vie dans les prisons surpeuplées. Elles dénoncent l'insalubrité, le manque d'eau et de nourriture, ainsi que la torture qui est une pratique courante dans les lieux de détention. Notre correspondant Moki Edwin Kinzeka a visité une prison à Yoko, dans le centre du Cameroun. Écoutons ce reportage présenté par Lionel Gaïma.
Penda Emmanuel, 26 ans, a déjà passé 4 années de sa vie à la prison de Yoko dans le centre du Cameroun. Il avait été condamné à 7 ans de prison pour vol et tentative de meurtre. Après 2 ans de détention à Yaoundé, il a été transféré à Yoko.
Non,
ce n'est pas bon à Yoko. D'abord, il n'y a pas à manger. Les gens survivent grâce à la chasse et toutes sortes de choses. Cela veut dire que si vous êtes à la prison de Yoko, vous allez beaucoup souffrir. Pem Clément, lui, est condamné à perpétuité après avoir été reconnu coupable de meurtre. Selon lui, le manque de nourriture et d'eau potable, ainsi que la torture et les traitements inhumains ont provoqué des émeutes à son arrivée à Yoko il y a 10 ans.
Les prisonniers s'étaient évadés de cette prison et on avait envoyé les corps armés de Yaoundé. Et ces prisonniers faisaient vraiment du massacre dans la ville, au point où on avait sonné la cloche de la gendarmerie et on a demandé à 18h, personne ne doit plus jamais sortir. Les hélicoptères faufilaient dans tous les champs et les prisonniers là ont violé les grands-mères. Ils ont tout fait, mais on les tuait aussi. On ne sait pas maintenant si certains se sont échappés ou bien on avait tout pris.
Les 78 centres de détention du pays étaient faits pour accueillir 16 000 prisonniers. Maintenant, ils sont plus de 30 000, dont la plupart en attente de jugement. Des prisons comme celle de Kondengi à Yaoundé devaient recevoir 500 prisonniers, mais sont maintenant bondées, leur population carcérale ayant été multipliée par 4. Chez Mouta Divine préside la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés du Cameroun. Son groupe appelle au respect des droits des prisonniers en leur garantissant des procès équitables ainsi que la satisfaction de leurs besoins élémentaires. Vous ne pouvez continuer de nier ce que tout le monde sait et dont les preuves sont là. Acceptez plutôt qu'il y a des violations, trouvez les causes profondes et les solutions pour que ne se reproduisent plus. Mapui David, régisseur de la prison de Yoko, assure pour sa part que des efforts sont faits. Selon lui, en 2 ans, le nombre de prisonniers y est passé de 3 000 à 100 aujourd'hui.
La prison de Yoko se porte bien pour le moment. Et puis l'État fait des efforts pour cette prison. Il n'y a que l'adduction d'eau, le forage, qui n'est pas réalisé. Les détenus souffrent beaucoup pour ce problème d'eau. Vous savez que la prison de Yoko reçoit par transfèrement. Donc il n'y a pas une juridiction à Yoko pour placer les personnes en détention. Donc je ne prends que les détenus soient de Yaoundé, d'Ntui, de ça. Je dois prendre les détenus de Yaoundé pour décongestionner la prison centrale. Pour le moment, non. Mais je pense que les projets de l'État voudraient que ceux qui sont à Yaoundé, déjà condamnés, peuvent venir à Yoko. Mais pour le moment, ils ne sont pas encore là.
Mais puis David rejette les allégations de prisons surchargées. Amnesty International avait rapporté en septembre que les prisons camerounaises sont surpeuplées avec de nombreuses arrestations de membres présumés de Boko Haram, particulièrement à Maroua, près de la frontière avec le Nigeria. Yaoundé avait rejeté ces accusations.
Tchad à présent pour un dossier consacré à l'éducation. À N'Djamena, le gouvernement et le collectif des associations et mouvements des jeunes sont à couteau tiré au sujet de la suppression de l'intégration à la fonction publique. Une deuxième tentative de marche pacifique a été étouffée par la police le week-end dernier à N'Djamena. Retour sur ces manifestations avec notre correspondant André Komadjingar.
Je suis la première conseillère du bureau Kamoujet. Je suis un diplômé sans emploi, j'ai un master 2 jusqu'à la gestion.
Dadji Rahamata Hajo de 32 ans est le point focal de la marche initiée ce samedi 6 février 2016. Elle a été arrêtée ensemble avec 16 autres manifestants par la police nationale. Libérée quelques heures plus tard, elle a regagné ses compagnons de lutte au siège de l'Association pour la promotion des libertés fondamentales au Tchad pour un séminaire de réflexion.
Comme j'étais la seule femme, j'étais de l'autre côté et les autres étaient incarcérés dans une cellule. Il y avait 2 qui étaient tombés en syncope. On a crié, on a fait encore la manifestation au niveau de la police pour que les 2 soient affectés à l'hôpital. On m'a auditionné plus de 3 fois et on m'a libéré. On m'a demandé seulement pourquoi tu marches avec les hommes.
Sa libération ne sera que de courte durée puisqu'elle a été ramenée à la police judiciaire pour être auditionnée sur procès verbal au même titre que les 16 autres manifestants arrêtés. Une rencontre d'urgence des organisations de la société civile s'est tenue ce samedi soir pour exiger la libération sans condition de ce jeune arrêté. Ces organisations demandent au gouvernement de lever cette mesure. Narma Diseline est la porte-parole de la coalition Trop c'est trop.
Gouverner, c'est être un serviteur.
Le cas du Tchad, le gouvernement se considère comme il est maître de la population. Non, c'est un serviteur de la population. Que le gouvernement lève cette mesure-là. À moins que le gouvernement décide aussi de fermer les établissements scolaires pendant 3 ans. Mais l'argument avancé par rapport à la crise, tout ça, là, n'est pas fondé. Les enfants, là, n'ont jamais contribué à la dilapidation des biens et services de l'État. Mais pourquoi on doit les sacrifier?
Selon le procureur de la République, sur les 17 manifestants arrêtés, 6 sont libérés et 11 sont gardés à vue pour des mesures d'enquête. Le président du mouvement tchadien pour la défense des droits de l'homme, Mahamat Tahir Adirdir, qui suit de près cette situation, menace de porter plainte contre l'État tchadien.
Depuis l'arrivée de Déby, il n'y a pas eu une marche pacifique. Et en tant que président du mouvement tchadien pour la défense des droits de l'homme, j'ai mis en garde le gouvernement. À partir d'aujourd'hui, s'ils sont en train de tirer sur les possibles citoyens qui revendiquent leurs droits, on est prêt à porter une plainte dans les juridictions internationales. Nous, on demande au gouvernement de dialoguer avec les jeunes pour trouver une solution.
La semaine qui vient de commencer ce lundi va être perturbée car la tension est perceptible à travers la ville. Les coins stratégiques tels que les deux grands lycées de la capitale, le stade Idriss Mahamat Ouya et les sièges des associations de jeunes sont cadrés par la police. Les centrales syndicales suivent également cette situation de près, mais refusent tout commentaire pour l'instant. André Koduma Dingar Ndjamena, La Voix de l'Amérique.
Les 23 manifestants arrêtés samedi dernier lors d'une marche ont été remis en liberté lundi à N'Djamena. Ils entendaient dénoncer la violente répression le 4 février dernier d'un sit-in de jeunes qui protestaient contre le gel sur les 3 prochaines années des recrutements à la fonction publique. Pour un éclairage, Timothée Dondongmai a joint à N'Djamena le secrétaire général du CAMOJET, le collectif des associations et mouvements de jeunes du Tchad, Rémi Gamo.
Ce matin, le procureur s'est présenté avec quelques membres du gouvernement et en présence du directeur de la police judiciaire. Ils ont demandé qu'on nous libère et je les ai fait comprendre que d'abord, nous ne voulons pas cette libération tant que vous ne nous dites pas de quoi nous sommes arrêtés. Et c'est ainsi qu'il nous a rassuré qu'en venant nous rencontrer en prison, il a fait pour rencontrer les membres du gouvernement et les membres du gouvernement ont compris que notre revendication est légitime et qu'ils vont tout mettre en œuvre pour satisfaire nos revendications. Et comme ça, je lui ai fait comprendre que notre collectif CAMOJET est déterminé à travers sa revendication qui est celui d'annuler la loi de finances 2016 pour réintégrer les jeunes à la fonction publique. Entre-temps, après notre action, nous avons également demandé la démission du ministre de l'Intérieur, Omar Bachir, et également du DG de la police pour torture et menace à ma personne. Ces deux personnalités n'arrivent pas à faire la différence entre une marche pacifique et une manifestation. Donc nous avons également envoyé une note au gouvernement. Alors nous avons tout présenté au procureur que le CAMOJET intentera des actions dans les cours jours à venir. Une commission sera mise sur pied pour suivre à ce que ces revendications entrent en vigueur.
Vous êtes maintenant libre. Est-ce qu'il y a des conditions pour cette libération?
Il n'y a aucune condition. Le procureur nous a dit qu'il n'y a aucune condition, aucune charge. Parce que pendant l'audition, les OPJ qui nous ont auditionnés nous ont dit qu'après nous, il y a des casses. Donc j'ai dit que le gouvernement, s'il y a des casses, le gouvernement doit prendre ses responsabilités parce que nous avons saisi, alerté le gouvernement à un mois de nos actions. S'il y a des casses, il y a des destructions, le gouvernement sera responsable.
Qu'allez-vous faire maintenant que vous êtes libre?
Maintenant, nous avons des actions à mener. Dans 2 jours, nous allons convoquer tous les membres du bureau, et y compris les organisations de jeunes qui luttent pour la même cause. Nous allons mettre sur une commission et on va encore accorder un délai au gouvernement. Le gouvernement tchadien a ce système-là de nous roubler à travers des propositions, des promesses. Donc, nous allons mettre sur une commission qui va essayer de suivre si le gouvernement est sérieux et si le gouvernement n'est pas sérieux. Dans 2-3 semaines, nous allons saisir le procureur et saisir encore d'autres autorités pour reprendre encore notre action.
Rémi Gamo, secrétaire général du collectif des associations et mouvements de jeunes du Tchad. Rubrique santé, pour terminer l'émission. Dans le monde, au moins 200 millions de femmes et de filles dans 30 pays ont été excisées, la majorité avant leur 5e anniversaire, selon un rapport de l'UNICEF publié la semaine dernière à la veille de la journée internationale tolérance zéro aux MGF, soit les mutilations génitales féminines. En 2012, l'ONU a approuvé à l'unanimité une résolution demandant l'interdiction protection des mutilations génitales féminines. Pour faire un point, Nathalie Barge a joint à Bamako le docteur et socio-anthropologue Younoussa Touré.
Oui, je pense que les mentalités n'ont pas tout à fait évolué ou peut-être qu'elles ne se sont pas, en tout cas jusque-là, adaptées au message. Enfin, elles ne sont pas tout à fait réceptives au message qu'on leur envoie par rapport à ces phénomènes de lutte contre l'excision. Je pense que c'est un peu plus ça qu'une situation d'évolution. C'est-à-dire que, à mon avis, les gens ne sont pas tout à fait, dans certaines mesures, convaincus par les messages, parce qu'il y a des messages qui sont souvent contradictoires entre les différents intervenants de l'excision sur la contraception, sur la planification, etc. Et puis, bon, il y a d'autres qui trouvent un peu leur... et qui ont un langage contraire. Enfin, c'est ça, quoi. Donc, c'est pas que les mentalités n'ont pas évolué. Les mentalités ont évolué dans la mesure où les gens, de plus en plus, connaissent les méfaits, connaissent les dangers. Mais il y a juste deux phénomènes. On a voulu lutter du côté de la loi, on n'est pas allé trop loin. Du côté de la religion, on leur a dit dans une certaine étude qu'il n'est pas permis à un imam, quel que soit son niveau, d'interdire ce que le prophète et salut sur lui n'a pas interdit. Du côté des villageois, les chefs de village vous disent qu'une coutume, ils ne l'abolissent pas, puisque abolir une coutume dans un village, ils disent, il vaut mieux abandonner le village que d'abandonner la coutume. Alors si on veut s'adresser sur ces gens et les exciseuses qui y trouvent leur pain, si on veut s'adresser sur ces aspects, sur ces acteurs-là, je pense qu'on n'ira pas très loin. On n'ira pas très loin et je pense qu'il y a un phénomène de recrudescence, certainement dû au fait que quand une lutte perdure, les gens ont plutôt l'impression qu'en fait, ce n'est pas tellement l'affaire des gens qui aient des solutions, mais c'est plutôt bon pour eux que la lutte dure.
Mais docteur, hormis tous ces facteurs, est-ce que la population n'est pas plus sensible à la souffrance de ces jeunes filles, de ces enfants? Parce que qui n'a pas vu des images d'une petite fille excisée, parfois en plein public, de voir sa souffrance morale et physique? Est-ce que cela, ça ne permet pas à certaines personnes quand même d'avancer un petit peu plus dans le sens de leur bien-être?
Oui, tout à fait. Mais vous savez, il y a des zones où l'excision s'est faite justement pour faire souffrir. C'est une épreuve d'endurance. Vous voyez bien? Donc c'est comme ça que dans certains contrées, on comprend. On pense que quand on va, l'excision, c'est un rite de passage. Un rite de passage exige vraiment quelques épreuves à passer. Et on pense que dans cette souffrance, c'est vraiment une sorte de bravoure pour montrer qu'on peut passer vraiment à la case supérieure. Il y a des endroits où on faisait monter les filles excisées immédiatement sur des chevaux pour voir encore juste leur niveau d'endurance.
Le docteur et socio-anthropologue Younoussa Touré. Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la production, Georges Léonard Sagno. À la console, Tien Wong et Nelson Lopez. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Rendez-vous mercredi prochain, 18h10, temps universel sur VOA Afrique. Nous nous quittons en musique avec les Burkinabés, ATT et Sisao et leur morceau Awa. Bonne soirée et bonne nuit à tous.